Chapitre 2. De Sauveterre au Valpinçon, par la traverse, on ne compte qu'une lieue. Seulement, c'est une lieue de pays, elle a 7 kilomètres. Mais M. Sénéchal avait un bon cheval, le meilleur peut-être de l'arrondissement, affirmait-il en montant en voiture à M. Galpin d'Aveline et à M. d'Aubigeon. Le fait est qu'en moins de 10 minutes, ils eurent rejoint les pompiers, partis bien avant eux. Ces braves gens, presque tous maîtres ouvriers de Sauveterre, maçons, charpentiers et couvreurs, se hâtaient cependant de toute leur énergie. Éclairés par une demi-douzaine de torches fumeuses, ils allaient, peinant et soufflant, le long du chemin raboteux, poussant leurs deux pompes et le chariot qui contenait le matériel de sauvetage. « Courage, les amis !» leur cria le maire en les dépassant. « Bon courage !» À 3 minutes de là, galopant dans la nuit d'un train de cavaliers de balade, un paysan à cheval apparut sur la route. M. d'Aubigeon lui commanda de s'arrêter. Il obéit. C'était le même homme qui déjà était venu à Sauveterre donner l'alarme. « Vous revenez du Valpinçon ?» lui demanda M. Sénéchal. « Oui, » répondit le paysan. « Comment va le comte de Claudieuse ?» Il a repris connaissance. « Qu'a dit le médecin ?»« Qu'il s'en tirera probablement, et moi je cours chez le pharmacien chercher des remèdes. » Pour mieux entendre, M. Galpin d'Aveline, le juge d'instruction, se penchait hors de la voiture. « La rumeur publique accuse-t-elle quelqu'un » demanda-t-il. « Personne. Et l'incendie ?»« On a de l'eau, » répondit le paysan, « mais pas de pompe. Que voulez-vous qu'on fasse ? Et le vent qui redouble ?» « Ah, quel malheur ! Quel malheur !» Et il piqua des deux, pendant que M. Sénéchal rouait de coups son pauvre cheval, lequel, sous ce traitement extraordinaire, loin d'avancer plus vite, se cabrait et faisait des bonds de côté. C'est que l'excellent maire était exaspéré. C'est que ce crime lui apparaissait comme un défi à son adresse et la plus cruelle injure qu'on pût faire à son administration. « Car enfin, répétait-il pour la 10e fois à ses compagnons de route, est-il naturel, je vous le demande, est-il logique qu'un malfaiteur soit allé s'adresser précisément au comte et à la comtesse de Claudieuse, à l'homme le plus considérable et le plus considéré de l'arrondissement, à une femme dont le nom est synonyme de vertu et de charité ?» Et, intarissable, malgré les chaos de la voiture, M. Sénéchal racontait tout ce qu'il savait de l'histoire des propriétaires du Valpinçon. Le comte Trivulse de Claudieuse était le dernier descendant d'une des plus vieilles familles du pays. À 16 ans, vers 1832, il s'était embarqué en qualité d'enseigne de vaisseau et, pendant de longues années, il n'avait fait à Sauveterre que de rares et de brèves apparitions. Il était capitaine de vaisseau en 1859 et désigné pour l'épaulette de contre-amiral lorsque, tout à coup, il avait donné sa démission et était venu s'installer au château de Valpinçon, lequel ne gardait plus de ses antiques splendeurs que 2 tourelles tombant en ruine au milieu d'énormes amas de pierres noircies et moussues. 2 années durant, il avait vécu seul, se réédifiant tant bien que mal un logis, et des bribes éparses de la fortune de ses ancêtres, se reconstituant, à force de soins et d'activité, une modeste aisance. On pensait bien qu'il finirait ses jours ainsi, lorsque le bruit s'était répandu qu'il allait se marier. Et le bruit, chose rare, était vrai. Monsieur de Claudieuse, un beau matin, était parti pour Paris, et par les lettres de faire-part qui étaient arrivées peu après, on avait appris qu'il venait d'épouser la fille d'un de ses anciens camarades de promotion, Mademoiselle Geneviève de Tassard de Bruc. L'étonnement avait été grand. Le comte avait tout à fait grand air et était encore remarquablement bien de sa personne. Mais il venait d'avoir 47 ans et Mademoiselle de Tassard de Bruc en avait à peine 20. Ah, si la nouvelle mariée eût été pauvre, on eût compris et même approuvé le mariage. Il était si naturel qu'une fille sans dot sacrifie son cœur à la question du pain quotidien. Mais tel n'était pas le cas. Le marquis de Tassard de Bruc passait pour riche et avait, disait-on, compté à son gendre 50 000 écus. Alors on s'était imaginé que la jeune comtesse devait être laide à faire peur, infirme ou contrefaite pour le moins, idiote peut-être, ou d'un caractère impossible. Erreur, elle était apparue et on était demeuré saisi de sa noble et calme beauté. Elle avait parlé et chacun était resté sous le charme. Ce mariage était-il donc, comme on dit à Sauveterre, un mariage d'inclination ? On le crut, ce qui n'empêcha pas quantité de vieilles dames de hocher la tête et de déclarer que 27 ans, c'est trop entre deux époux et que cette union ne serait pas heureuse. Les fêtes n'avaient pas tardé à démentir ces sombres pronostics. À 10 lieues à la ronde, il n'existait pas de ménage aussi parfaitement uni que celui de monsieur et madame de Claudieuse et deux enfants, deux filles, qu'ils avaient eus à 4 ans d'intervalle, devaient avoir pour toujours fixé le bonheur à leur paisible foyer. De son ancienne profession, de ce temps où il administrait les possessions lointaines de la France, le comte avait, il est vrai, gardé ses habitudes hautaines de commandement, une attitude sévère et froide, une parole brève. Il était, de plus, d'une si extrême violence que la plus légère contradiction empourprait son visage. Mais la comtesse était le calme et la douceur même, et comme elle savait toujours se jeter entre la colère de son mari et celui qui se l'était attiré, comme ils étaient l'un et l'autre justes, bons jusqu'à la faiblesse, généreux et pitoyables aux malheureux, ils étaient adorés. Il n'y avait guère que sur l'article chasse que M. de Claudieuse n'entendait pas raison. Chasseur passionné, il veillait toute l'année sur son gibier avec la sollicitude inquiète d'un avare, multipliant les gardes et les défenses, poursuivant les braconniers avec un tel acharnement qu'on disait « Mieux vaut lui voler 100 pistoles que lui tuer un merle. » Monsieur et madame de Claudieuse vivaient d'ailleurs assez isolés, absorbés par les soins d'une vaste exploitation agricole et par l'éducation de leurs filles. Ils recevaient rarement, et on ne les voyait pas 4 fois par hiver à Sauveterre, chez les demoiselles de la Varande ou chez le vieux baron de Chandoré. Tous les étés, par exemple, vers la fin de juillet, ils s'installaient pour un mois à Royan, où ils avaient un chalet. Tous les ans, également, à l'ouverture de la chasse, la comtesse allait, avec ses filles, passer quelques semaines près de ses parents, qui habitaient Paris. Pour bouleverser cette paisible existence, il ne fallut pas moins que les catastrophes de 1870. En apprenant que les Prussiens vainqueurs foulaient le sol sacré de la patrie, l'ancien capitaine de vaisseau sentit se réveiller en lui tous ses instincts de français et de soldat. Quoi qu'on pût faire pour le retenir, il partit. Légitimiste obstiné, il se déclarait prêt à mourir pour la République, pourvu que la France fût sauvée. Sans l'ombre d'une hésitation, il offrit son épée à Gambetta qu'il détestait. Nommé colonel d'un régiment de marche, il se battit comme un lion depuis le premier jour jusqu'au dernier, où il fut renversé et foulé aux pieds en essayant d'arrêter l'affreuse débandade d'un des corps d'armée de Chanzy. Revenu au Valpinçon à la signature de l'armistice, personne, hormis sa femme, n'avait pu lui arracher un mot de cette douloureuse campagne. On l'engageait à se présenter aux élections et certainement il eût été élu. Il refusa, disant que s'il savait se battre, il ne savait pas discourir. Mais c'est d'une oreille distraite que le procureur de la République et le juge d'instruction écoutaient ces détails qu'ils connaissaient aussi bien que M. Sénéchal. Aussi, tout à coup, « N'avançons-nous donc pas ?» demanda M. Galpin d'Aveline. « J'ai beau regarder, je n'aperçois aucune apparence d'incendie. »« C'est que nous sommes dans un bas-fond, » répondit le maire. « Mais nous approchons, et lorsque nous serons en haut de cette côte que nous gravissons, soyez tranquilles, vous verrez. » Cette côte est bien connue dans le département et même célèbre sous le nom de montagne de Sauveterre. Elle est si raide et formée d'un granit si dur que les ingénieurs qui ont tracé la route nationale de Bordeaux à Nantes se sont détournés d'une demi-lieue pour l'éviter. Elle domine tout le pays et, parvenus à son sommet, M. Sénéchal et ses compagnons ne purent retenir un cri. « Horesco !» murmura le procureur de la République. Le foyer même de l'incendie leur était encore caché par les hautes futaies de roches-pommiers, mais les jets de flammes s'élançaient bien au-dessus des grands arbres, illuminant tout l'horizon de sinistres lueurs. Toute la campagne était en mouvement. Le tocsin sonnait à coups précipités à l'église de Bréchy, dont le clocher tronqué se détachait en noir sur la pourpre du ciel. Dans l'ombre, retentissaient les rauques mugissements de ces conques marines dont on se sert pour appeler les ouvriers des champs. Des pas effarés sonnaient le long des sentiers et des paysans passaient en courant, un seau de chaque main. « Les secours arriveront trop tard, » dit M. Galpin d'Aveline. « Une si belle propriété, » dit le maire, « et si savamment aménagée. » Et au risque d'un accident, il lança son cheval au galop sur le revers de la côte, car le Valpinçon est tout au fond de la vallée, à 500 mètres de la petite rivière. Tout y était, terreur, désordre, confusion. Et pourtant, les bras n'y manquaient pas, ni la bonne volonté. Au premier cri d'alarme, tous les gens des environs étaient accourus, et il en arrivait encore à chaque minute, mais personne ne se trouvait là pour diriger. Le sauvetage du mobilier surtout les préoccupait. Les plus hardis tenaient bon dans les appartements et, en proie à une sorte de vertige, jetaient par les fenêtres tout ce qui leur tombait sous la main. Et dans le milieu de la cour s'amoncelaient les pêle-mêle, les lits, les matelas, les chaises, le linge, les livres, les vêtements. Cependant, une immense clameur salua l'arrivée de M. Sénéchal et de ses compagnons. « Voilà, monsieur le maire !» s'écrièrent les paysans, rassurés par sa seule présence et prêts à lui obéir. Monsieur Sénéchal, du reste, jugea bien d'un coup d'œil la situation. « Oui, c'est moi, mes amis, » dit-il, « et je vous félicite de votre empressement. Il s'agit à cette heure de ne pas gaspiller nos forces. La ferme, les chais et les bâtiments d'exploitation sont perdus, abandonnons-les. Concentrons nos efforts sur le château. Organisons-nous. La rivière est tout proche, formons la chaîne. Tout le monde à la chaîne, hommes et femmes. Et de l'eau, de l'eau. Voilà les pompes. » On les entendait, en effet, rouler comme un tonnerre. Les pompiers parurent. Le capitaine Parenteau prit la direction des secours. Enfin, M. Sénéchal put s'informer du comte de Claudieuse. « Le maître est là !» lui répondit une vieille femme en montrant à 100 pas une maisonnette à toit de chaume. « C'est le médecin qui l'y a fait transporter. »« Allons le voir, messieurs, » dit vivement le maire au procureur de la République et au juge d'instruction. Mais ils s'arrêtèrent au seuil de l'unique pièce de cette pauvre demeure. C'était une grande chambre, au sol de terre battue, aux solives noircies et toute chargée d'outils et de paquets de graines. Deux lits à colonnes torses et à rideaux de serge jaunâtre, deux bons grands lits de Saint-Onge occupaient tout le fond. Sur celui de gauche, une petite fille de 4 à 5 ans dormait, roulée dans une couverture sous la garde de sa sœur, de 2 ou 3 ans plus âgée. Sur le lit de droite, le comte de Claudieuse était étendu, ou plutôt assis, car on avait entassé sous ses reins tout ce qu'on avait pu arracher d'oreiller à l'incendie. Il avait le torse nu et ruisselant de sang, et un homme, le docteur Saignebosse, en bras de chemise et les manches retroussées jusqu'au coude, s'inclinait vers lui et, une éponge d'une main, un bistouri de l'autre, semblait absorbé par quelque grave et délicate opération. Vêtu d'une robe de mousseline claire, la comtesse de Claudieuse était debout au pied du lit de son mari, pâle mais sublime de calme et de fermeté résignée. Elle tenait une lampe et en dirigeait la lumière selon les indications du docteur. Dans un coin, deux servantes étaient assises sur un coffre et leur tablier relevé sur la tête pleurait. Singulièrement ému, le maire de Sauveterre prit enfin sur lui d'entrer. Ce fut le comte de Claudieuse qui, le premier, l'aperçut. « Eh, c'est ce brave Sénéchal, » dit-il. « Approchez, cher ami, approchez. » L'année 1871, vous le voyez, est une année fatale. De tout ce que je possédais, il ne restera plus au jour que quelques pelletées de cendres. C'est un grand malheur, répondit le digne maire, mais nous en avons craint un bien plus irréparable. Dieu merci, vous vivrez. Qui sait, je souffre terriblement. Madame de Claudieuse tressaillit. Tilvurs! Murmura-t-elle d'une voix doucement suppliante. « Trivulse !» Jamais amant n'arrêta sur l'ami de son âme un regard plus tendre que celui dont M. de Clodieuse enveloppa sa femme. « Pardonne-moi, chère Geneviève, pardonne-moi mon manque de courage. » Un spasme nerveux lui coupa la parole et, tout aussitôt, d'une voix éclatante comme une trompette, « Monsieur, s'écria-t-il, docteur, tonnerre du ciel, vous m'écorchez !»« J'ai là du chloroforme, » prononça froidement le médecin. « Je n'en veux pas. Résignez-vous alors à souffrir, et tenez-vous tranquille, car chacun de vos mouvements augmente la souffrance. » Sur quoi, épongeant un filet de sang qui venait de jaillir sous son bistouri, « Du reste, ajouta-t-il, nous allons prendre quelques minutes de repos. » « Mes yeux et ma main se fatiguent. Je ne suis plus jeune, décidément. » Le docteur Saignebose avait 60 ans. C'était un petit homme au teint bilieux, maigre, chauve, d'une tenue plus que négligée et porteur d'une paire de lunettes d'or qu'il passait sa vie à retirer, à essuyer et à remettre. Sa réputation médicale était grande. On citait de lui à Sauveterre des cures merveilleuses. Cependant, il n'avait que peu d'amis. Les ouvriers lui reprochaient sa morgue dédaigneuse, les paysans son âpreté au gain et les bourgeois ses opinions politiques. On rapporte qu'un soir, dans un banquet, il s'était écrié en levant son verre « Je bois à la mémoire du seul médecin dont j'envie la pure et noble gloire, à la mémoire de mon compatriote le docteur Guillotin de Sainte. » Avait-il vraiment porté ce toast ? Le positif, c'est qu'il se posait en démocrate farouche et qu'il était l'âme et l'oracle des petits conciliabules socialistes des environs. Il étonnait quand il entamait le chapitre des réformes qu'il rêvait et des progrès qu'il concevait, et il faisait frémir par le don dont il parlait de porter le fer et le feu jusqu'au fond des entrailles pourries de la société. Ses opinions, des théories utilitaires souvent étranges, certaines expériences plus étranges encore qu'il poursuivait au su et vu de tous avaient fait douter parfois de l'intégrité de l'intellect du docteur Saignebosse. Les plus bienveillants disaient « C'est un original ». Cet original, comme de raison, n'aimait guère M. Sénéchal, un ancien avoué réactionnaire. Il tenait en piètre estime le procureur de la République, un inutile fureteur de bouquins. Mais il détestait cordialement M. Galpin d'Aveline. Pourtant, il les salua tous les trois et, sans se soucier d'être ou non entendu de son malade, « Vous voyez, leur dit-il, M. de Clodieuse est en très fâcheux état. C'est avec un fusil chargé de plomb de chasse qu'on lui a tiré dessus et les désordres des blessures de cette origine sont incalculables. J'inclinerai volontiers à croire qu'aucun organe essentiel n'a été atteint, mais je n'en répondrai pas. J'ai vu souvent dans ma pratique des lésions minuscules telles qu'on peut produire un grain de plomb, lésions mortelles cependant, ne se révéler qu'après 12 ou 15 heures. » Il eût continué longtemps s'il n'eût été brusquement interrompu. « Monsieur le docteur, prononça le juge d'instruction, c'est parce qu'un crime a été commis que je suis ici. Il faut que le coupable soit retrouvé et puni. Et c'est au nom de la justice que, dès ce moment, je requiers le concours de vos lumières. »